un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur tu l'es à chaque fois. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Tu l'es à chaque fois.
Allô, allô, allô. Vous êtes là. Je règle la technique pour optimiser, pour que le son soit vraiment, vraiment bien. J'espère que ça s'entend, que vous êtes tous à l'oreille, attentifs et attentives. Voilà. Alors. On reprend. Vous êtes bien sur la radio primitive, vous êtes dans Trudertz avec Alain Star et le mercredi soir à 21h, c'est Trudertz. Je vous propose un programme tout à fait sympathique, j'espère qu'il vous plaira. Il s'agira de métaphores. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas purement littéraire, ce ne sont pas que des figures de rhétorique, mais ce sont uniquement des métaphores, alors comment dire, coquines. Hein, voilà. Il y aura plein de choses comme ça qui vont vous faire un petit peu réagir, sourire ou donner envie. Voilà. surtout des vieilles chansons, parce que ça ne se fait plus tellement, j'ai un petit peu encore, mais néanmoins, on va reprendre les classiques avec un petit exemple. Ben, tiens, pour commencer, on pourrait démarrer avec, bon, allez, un classique. Ah, les fraises et les framboises. Alors, c'était une chanson... on va dire, qui apparaît comme une chanson à boire. Hein. Elle est pratiquement aussi connue, aussi célèbre que le pont d'Avignon ou la mère Michel. Ça fait partie du folklore. En tout cas, on a l'impression que ça fait partie du folklore et du répertoire traditionnel. Et pourtant, elle est relativement récente puisqu'elle date de 1927. Et je vais vous donner l'interprétation d'une de ses plus interprètes d'époque. Il s'agit de Madame Parisis. L'enregistrement date de 1929. Ah, les fraises et les framboises. Alors donc, il s'agit de fraises, de framboises, bien évidemment, mais aussi d'un petit oiseau qui va avoir des problèmes, mais ça va être résolu. Vous inquiétez pas. Écoutez bien, parce que peut-être que vous l'avez entendu, mais peut-être pas comme ça. Voilà. Métaphore coquine ce soir dans Trudertz.
Sur la route de Montmartre à Paris, j'ai rencontré trois gars de mon pays. Ah, les fraises, les framboises, le bon vin que nous avons bu, et les belles villageoises que nous n'avions plus. J'ai rencontré trois gars de mon pays, le plus belle m'embrasse et le plus jeune aussi. Ah, les fraises, les framboises, le bon vin que nous avons bu, et les belles villageoises que nous n'avions plus. Le plus jeune m'embrasse et le plus bel aussi m'emmène dans sa chambrette pour parler du pays. Oh, les fraises, les framboises, le bon vin que nous avons bu et les belles villageoises que nous n'avons plus. M'emmène dans sa chambrette pour parler du pays. Comme il n'y avait pas de chaise, je m'assieds sur le lit. Oh, les fraises, les framboises, le bon vin que nous avons bu et les belles villageoises que nous n'avons plus. Comme il n'y avait pas de chaise, je m'assieds sur le lit. Il en trouve ma chemisette et voit un petit nid. Oh, les fraises, les framboises, le bon vin que nous avons bu et les belles villageoises que nous n'avions plus. Il en trouve ma chemisette et voit un petit nid. Puis il me dit, regarde le joli canari. Oh, oh, monsieur, monsieur, j'ai jamais vu ça, monsieur. Oh, 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 monsieur. Puis il me dit, regarde le joli canari. Je caresse l'oisille et voilà qu'il grandit. Ah, les fraises, les framboises, le bon vin que nous a avons bu. Elle est belle, villageoise, que nous ne verrons plus. Je caresse l'oisille, et voilà qu'il grandit. Et que battant des ailes, il entra dans le nid. Oh les fraises, les framboises, le bon vin, nous avons bu. Elle est belle, villageoise, que nous ne verrons plus. Battant des ailes, il entra dans le nid. Il y rentra si fort que le poutil rompit. Oh, les fraises, les framboises, le bon vin que nous avons bu. Et les belles villageoises que nous n'avons plus. Il y rentra si fort que le poutil rompit. Pleurez, pleurez, mesdames, la mort du canari. Oh, les fraises. Oh, le bon vin que nous avons bu, et les belles villageoises que nous ne verrons plus. Ne pleurez plus, mesdames, la mort du canari, car étant très adroit, je l'ai rendu à la vie. À les fraises et les framboises, le bon vin que nous avons bu.
Voilà, voilà, voilà. Donc tout s'arrange, le canari renaquit. Voilà, donc c'était une histoire d'oisillon, hein, c'était absolument charmant. Maintenant, ça se passe dans une cuisine. Il est question de nourriture, de cheminée, de feu et de gigot. Ça s'appelle « Tous les deux dans la cuisine ».
J'ai fait connaissance il y a 6 mois de ça, d'une femme aux merveilleux appas. Elle est placée chez des gens très riches, pour leur y préparer le rata. Comme de mon escouade, je suis le cuistot. L'été quand ses patrons vont aux eaux, je monte retrouver la boniche, et puis l'on s'offre de bons boulots. Tous les deux dans la cuisine, très gentiment on turbine. Vivement elle allume son fourneau, moi je m'allume bien plus tôt. Mais elle dit pleine de prudence, faut pas jouer avec l'essence. Elle me tape sur les doigts, craignant que trop amoureux. À sa cheminée je mette le feu. Pendant qu'elle prépare les faillots, moi j'ai mon œil dessus le gigot. En parlant de gigot, la cuisinière m'a l'air d'en avoir de très beaux. Même que ça m'excite l'appétit, je m'en paierai une tranche que je lui dis. Mais elle me répond d'une voix sévère, il te faut attendre qu'il soit cuit. Tous les deux dans la cuisine, on mange de façon divine. Elle me sert du pied qu'il était patent, sous la table j'en fais autant. Et quand de façon charmante, elle m'offre une langue sauce piquante. Alors moi que je tiens à me montrer fort galant, je l'embrasse et je la lui rends. Pour l'heure quand le repas est fini, je l'aide à ranger tout son fourbi. Et son fourbi du moins je le suppose, il doit être rudement gentil. Quand c'est en ordre on prend un bon jus, on y colle de la goutte par-dessus. Dans le gosier qu'en passe ces bonnes choses, ça vous fait l'effet d'un petit Jésus. Tous les deux dans la cuisine, on boit d'une façon divine. elle me sert une liqueur qu'elle nomme chérie. Elle m'appelle comme ça aussi. L'autre soir, comme c'était sa fête, on s'est payé de l'amourette. Elle trouva ça très bon, surtout quand je lui offris pour faire trompette mon petit biscuit.
Ah, n'y voyez aucune allusion graveleuse, c'est simplement, voilà, des images, quoi. Ça se passait dans la cuisine, tous les deux dans la cuisine. Vous avez peut-être reconnu la voix de Fernandel, assez jeune, puisqu'il doit être né en début du 20e, et ça datait de 1930. Donc il doit avoir environ 25 ans, donc beaucoup plus jeune que ce qu'on voit au cinéma, qui date des années souvent 50-60. Fernandel, tous les deux dans la cuisine, 1930. On continue avec quelque chose d'un peu plus récent, 1964. Le cucurbitacé.
L'autre jour, sortant d'une boutique où j'avais acheté un melon, un professeur botanique me dit, savez-vous son nom ? Comme je restais sans réplique, il me dit son nom scientifique. C'est un cucurbitacé, qu'a des côtes, c'est un cucurbitacé, qu'a des côtes sur les côtés. Ah bon, c'est un cucurbitacé. En sortant de chez la marchande, mon melon dans un journal, v'là qu'un agent me demande, est-ce une machine infernale ? Oh, c'est pas une bombe d'anarcho, que je réponds en tournant le dos. C'est un cucurbitacé, qu'a des côtes, c'est un cucurbitacé, qu'a des côtes sur les côtés. Je l'avais acheté pour la fête de mon homme et je me rendais chez moi d'une allure directe pour me dépêcher. Je prends le tramway, ça sent fort, dit le conducteur. Je dis c'est pas de moi que vient l'odeur, hein. C'est de ce cucurbitacé qu'a des côtes, c'est de ce cucurbitacé qu'a des côtes sur les côtés. Près de moi, une petite blonde me dit hey, votre melon, il est pas frais, hein. Je le fais sentir à tout le monde et chacun se le repassait. Si bien que pour se renseigner, chaque voyageur mettait le nez sur mon cucurbitacé, qu'a des côtes, sur mon cucurbitacé, qu'a des côtes sur les côtés. Oh non, alors. Comme ça faisait un scandale, le conducteur me dit mal appris, c'est pas le tramway idéal, il ne faut pas de melon ici. Puis il me fait des caniniers en me flanquant son soulier sur le cucurbitacé. Qu'a des côtes sur le cucurbitacé. Qu'a des côtes sur les côtés. Je vois rentrant au domicile une femme assise sur les genoux de mon grand amour Achille et mangeant un cantaloup. Devant cette trahison, je m'écris, je suis comme mon melon, je suis cucurbitacé. J'ai des cornes, je suis cucurbitacé, j'ai des cornes de chaque côté.
Le cucurbitacé par Annie Cordy en 1964. Nous allons momentanément quitter les fruits, les légumes, les végétaux et la cuisine pour passer à un instrument de musique et sous forme poétique.
Une jeune nonnette, en s'éveillant du haut de sa chambrette, vit dans un champ un garçon qui jouait gaiement d'un bel instrument. D'un bel instrument long comme cela, oh guélan la l'enlève, oh guélan la, oh guélan la l'enlève, oh guélan la, se mit à la fenêtre le regardant, puis d'un air très honnête va demandant, bon garçon dites franchement quel est l'instrument. Quel est l'instrument dont vous jouez là? Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Vous jouez d'un air tendre qui me plaît tant, je voudrais bien la prendre tout promptement. Ce serait grand contentement pour tout le couvent. Pour tout le couvent de savoir cela. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Regarda la pucelle fort tendrement, et la voyant si belle, dit en riant: descendez car mon instrument, quoi qu'il soit bien grand, quoi qu'il soit bien grand, n'atteindra pas là. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Ne se fit point attendre, vint promptement. D'abord il lui fit prendre son instrument, et joua si parfaitement, si gaillardement. Si gaillardement dès ce moment-là. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Cette leçon finie trop brusquement, notre nonne jolie dit doucement: j'en aurais joué plus longtemps, puis elle le fit tant. Puis elle fit tant qu'il recommença. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Voyant quelqu'un paraître, la pauvre enfant remercia son maître en lui disant: n'oubliez donc pas le couvent, revenez souvent. Revenez souvent, on étudiera. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la. Oh, guélan la l'enlève, oh, guélan la.
Oui, alors finalement, je suis pas sûr que ce soit un instrument de musique, mais enfin, ça s'appelle tout de même l'instrument. Et c'est interprété par Caroline Claire. Vous êtes bien sur la radio primitive dans Trudertz en compagnie d'Alain Star, et il s'agit ce soir de métaphores coquines, donc rien de graveleux, encore moins pornographique, mais simplement quelques délicates allusions. On reste sur l'instrument de musique ou une trompette. Une trompette en bois, c'était une chanson de l'original avait été enregistrée dans les années 20. Et je crois que c'est le même interprète, là, Georges Milton, parce qu'il est français, c'est Georges Milton, qui, en 1964, qui reprend sa trompette en bois, qui avait été célèbre, un tube, si on peut dire, dans les années 20. Le trompette en bois.
Il y avait une fois, quoi, 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 une poupée en velours qui devenait folle d'amour pour un petit soldat de bois qui, ma foi, refaisait avec chic le même geste automatique. Il tenait une trompette, mais il ne jouait jamais rien. Et constamment la pauvrette murmurait le croyant musicien: ah, dis chérie, ah, joue-moi-en, faites la trompette, comme cela doit être amusant, joue-moi-en, sans, joue-moi-en. Il s'excusait en lui disant: c'est un air bête, je le regrette, je n'en joue pas, je vais te dire pourquoi, ma trompette, elle est en bois. Elle essayait parfois, quoi, 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 de le charmer, de le griser avec un gentil baiser. Elle espérait, je crois, quoi, enflammé de désir, il voudrait lui faire plaisir, mais comme un petit égoïste, il se laissait dorloter. Et après, mon Dieu, que c'est triste, le trompette aussitôt s'endormait. Ah, dis chérie, oh, joue-moi-en, la trompette, comme ce doit être amusant. Joue-moi-en, sans, joue-moi-en. Il s'excusait en lui disant d'un air bête, je le regrette, je n'en joue pas, je vais te dire pourquoi. Ma trompette, elle est en bois. Tout là-bas j'aperçois, quoi, une belle dame qui dans le fond ne rit pas de ma chanson. Poupée, elle a comme toi, quoi. Un mari musicien dont la trompette ne joue rien. De temps en temps, il s'apprête à faire taratata. Mais aussitôt, il s'arrête, car hélas, il ne fait cracla-cla. Ah, dis chérie, en joue-moi-en, la trompette, tu ne m'en joues plus depuis 10 ans. Joue-moi-en, sans, joue-moi-en. Il balbutie en s'excusant, que d'un air bête, je le regrette. Et finalement il reste quoi? Encore un trompette en bois. Il reste quoi? Encore un trompette en bois.
Ah oui, c'est oui, trompette en bois. Donc très très connu dans ces époques-là, années 20 environ, voilà, quelque chose comme ça. Alors et maintenant quelque chose d'assez remarquable, d'une apparence très martiale. Cette saison en plus, puisque ça s'appelle L'hymne à l'asperge, ce sont messieurs Paul Clérouc pour le texte et Fernand Heinz pour la musique. Ça date de 1932, interprété par Stello. Double sens, si vous voulez. Hein. Bon, c'est tout à fait sympathique, mais c'est un rythme, c'est un peu différent, ça sort un peu de l'ordinaire. Vous allez voir, c'est côté martial, mais c'est absolument magnifique. Et en plus, cette saison, vous pouvez encore trouver quelques asperges, je pense, à cette heure-ci.
On a fêté de nombreux centenaires, Molière et Brillat, Savarin. Le Parmentier et la pomme de terre, Urgère, Momus et le bon vin. Puisqu'aujourd'hui tous nos désirs convergent pour célébrer tant de bienfaits, je veux chanter la gloire de la terre, ce fier produit du sol français. Asperge, asperge divine,
pour nous, que des arbres.
Si les roses ont des épines,
asperge, tu n'en as pas.
Vraiment, l'asperge est un produit céleste, lorsque le bon Dieu vit qu'Adam. Seul dans l'Éden, avait un air funeste, il fit des beaux charmes tentants. Adam restait pensif devant la Vierge, c'est alors que le Créateur, avec génie, fit pousser une asperge, et ce fut le premier bonheur. Asperge, asperge divine,
pour nous, tu n'as que des arbres.
Si les roses ont des épines,
asperge, tu n'en as pas.
Devant l'asperge, les femmes se prosternent, car son passé fut triomphal. Elle est la reine de nos festins modernes, la déguster est un régal. Pour la manger, il faut la prendre mûre, entre les doigts amoroso. Et ne pas prendre, ce serait lui faire injure, une fourchette à escargot. Asperge, asperge divine,
pour nous, tu n'as que des abats.
Si les roses ont des épines,
asperge, tu n'en as pas.
Mais les plaisirs que l'asperge nous donne sont éphémères, profitons-en. Il faut savoir la prendre courte et bonne, plus tard hélas, il n'est plus temps. Et vous mesdames, si gentiment despotes, quand le temps de l'asperge reviendra, par gourmandise, n'en mangez pas des bottes, n'en prenez qu'une, mais gardez-la.
C'est, je suis obligé de l'avouer, c'est une de mes préférées quand même, parce que là, on l'écoute au garde à vous, hein, l'hymne à l'asperge. J'ai du mal à m'en mettre. 1932 par Stello, hymne à l'asperge. Ça, c'est quand même un must. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer maintenant? Ah, ben quelque chose qui reste assez proche de nous, puisqu'il s'agit de. Je crois de vendange, donc on reste dans le végétal, dans le fruit, dans le raisin, hein, le raisin. En voici, je vais vous en envoyer du raisin.
Ninette, ma ninette, viens donc vendanger, prends ta petite serpette, ton gentil panier. Vois le soleil brille sous les échalas, partons ma gentille, oui ne tardons pas. L'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier, dans ton petit panier. Sous la mousseline de ton corsage blanc, mon amour devine un trésor charmant. Viens sous la coudrette, tous deux aimons-nous, je te ferai ninette, un plaisir bien doux. L'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier, dans ton petit panier. Ninette, ma ninette, l'aspect du chasselas, depuis belle lurette, ne fut tentant comme ça. Vois la vigne penche sous une telle foison, et bientôt la branche frôlera le sillon. L'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier, dans ton petit panier. Ninette, ma ninette, vois ce beau raisin, au fil à fillette, y en a plein la main. Que la grappe est belle, que les grains sont noirs, le bon vin, dit-elle, coulera du pressoir. L'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier, dans ton petit panier. Comme Adam et Ève, car il faisait chaud, tous deux on enlève culotte caraco. Hélas, un gendarme nous avait suivis, et malgré nos larmes, dame prit tous nos habits. Il ne nous a laissé qu'une chose à chacun, à Ninette son petit panier et à moi la grappe de raisin. Ah, heureusement, sans ça, nous n'aurions plus pu chanter. L'envie me démange d'aller en vendange, d'aller en vendange et de grappiller dans ton petit panier, dans ton petit panier.
Alors, sinon, quelques précisions techniques. Chanson créée, ce petit panier, en 1905, grâce à Félix Mayol, le fameux Félix Mayol, repris aussi par d'autres gars à l'époque assez connus comme Charlus ou Georgel. Et puis, ce Priolet là, avait interprété ça, ce qu'on vient d'entendre. Il l'avait interprété dans les années 20-30. Et là, c'est un enregistrement tardif, en 1958. Donc, un assez vieux monsieur reprenait son titre fétiche, le Petit Panier, écrit par Louis Lust. C'est joli, hein, c'est gentil, c'est mignon comme tout. Et maintenant, une histoire plutôt de meubles qui va, je crois, s'exprimer maintenant à l'occasion d'un mariage. 1933.
N'avait jamais fait tant de bon.
N'avait jamais fait tant de bon.
N'avait jamais fait tant de bon, dit la mariée.
N'avait jamais fait tant de bon, dit le dredon.
Ah, dit la couverture.
Ah, dit la couverture.
Je n'ai jamais rien vu de si dur.
Je n'ai jamais rien vu de si dur.
Je n'ai jamais rien vu de si dur, dit la mariée.
Je n'ai jamais rien vu de si dur, dit la couverture.
Ah, dit travertin.
Ah, dit travertin.
On m'enfonce un drôle d'engin.
On m'enfonce un drôle d'engin.
On m'enfonce un drôle d'engin, dit la mariée.
On m'enfonce un drôle d'engin, dit travertin.
Ah, dit l'oreiller.
Ah, dit l'oreiller.
Vous allez m'écrabouiller.
Vous allez m'écrabouiller.
Vous allez m'écrabouiller, dit la mariée.
Vous allez m'écrabouiller, dit l'oreiller.
Ah, dit le baldaquin.
Ah, dit le baldaquin.
Ça me secoue comme un mannequin.
Ça me secoue comme un mannequin.
Ça me secoue comme un mannequin, dit la mariée.
Ça me secoue comme un mannequin, dit le baldaquin.
Ah, dit le drap du dessous.
Oh, dit le drap du dessous.
C'est toujours moi qui reçois tout.
C'est toujours moi qui reçois tout.
C'est toujours moi qui reçois tout, dit la mariée.
C'est toujours moi qui reçois tout, dit le drap du dessous.
Ah, dit le sommier.
Oh, dit le sommier.
Je suis déjà tout trempé.
Je suis déjà tout trempé.
Je suis déjà tout trempé, dit la mariée.
Je suis déjà tout trempé, dit le sommier.
Ah, dit le ciel de lit.
Oh, dit le ciel de lit.
Je suis dans le paradis.
Je suis dans le paradis.
Je suis dans le paradis, dit la mariée.
Je suis dans le paradis du ciel de lit.
Oh, dis la descente de lit.
Oh, dis la descente de lit.
C'est sur moi qu'on s'accroupit.
C'est sur moi qu'on s'accroupit.
C'est sur moi qu'on s'accroupit, dit la mariée.
C'est sur moi qu'on s'accroupit, la descente de lit.
Ah, disait Thomas.
Oh, disait Thomas.
Surtout ne m'emplissez pas.
Surtout ne m'emplissez pas.
Surtout ne m'emplissez pas, dit la mariée.
Surtout ne m'emplissez pas, disait Thomas.
Ah, dit l'injecteur.
Oh, dit l'injecteur.
Ça n'a pas la même saveur.
Ça n'a pas la même saveur.
Ça n'a pas la même saveur, dit la mariée.
Ça n'a pas la même saveur, dit l'injecteur.
Là ou pas, oui, c'est une dame que vous avez entendue dans cette La mariée 1933. Ça chantait en tout cas lors de mariage, bien évidemment, c'est sympathique. Donc, meubles literie qui cause. Alors là, j'ai appris, mais je vais vous faire partager mes connaissances. Il s'agit d'une prosopopée. Oui, c'est une figure de rhétorique, puisque là, on fait parler soit une personne, soit un objet. Donc, on fait parler le lit. Donc, voilà, c'est... Hein, retenez ça fait bien dans les... Hein Alors, maintenant, il s'agit d'un petit objet. Je ne sais pas lequel au juste, mais on va essayer de trouver.
Pour votre fête, mademoiselle Rose, je voulais vous apporter des fleurs, mais j'ai pas pu trouver des roses qui aient votre parfum et votre fraîcheur. Alors j'ai marchandé une broche, une montre en or et des bijoux. Seulement voilà, dans le fond de mes poches, l'argent, y en avait pas beaucoup. Mais vous ne perdez rien, j'ai trouvé le moyen de vous donner quelque chose de bien. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Allez chercher, allez. Dit-elle, je suis impatiente d'admirer votre petit objet. Je lui réponds, vous êtes exigeante, il faut deviner ce que c'est. Elle s'écrie, c'est un frigidaire, une robe ou un réveil matin. Je lui réponds, non, c'est une affaire qui peut tenir dans le creux de la main. C'est fin, c'est gentil, coquet, arrondi, ni trop grand, ni trop petit. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Allez, allez, allez-y, cherchez, cherchez. En tête à tête dans sa chambrette, on a fait un bon petit souper. Le bon vin et les amourettes, y'a rien de tel pour vous empêcher. En chahutant avec la belle, on a fait une chute sans se blesser. Je me suis trouvé à côté d'elle, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors illico, j'ai pris un écho en chantant amoroso. Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un petit objet à vous offrir. C'est quelque chose qui vous fera plaisir. Ça y est, vous brûlez là, ça y est. Mon petit cadeau si agréable, c'était une bague qui venait de ma sœur, en or jaune presque véritable, avec mon nom dans l'intérieur. Quand j'ai pris sa petite main potelée pour lui mettre la bague au doigt, elle en était tellement troublée que je vis rougir son préminois. Alors gentiment, devant son consentement, je murmurais bien tendrement. Ah, mademoiselle Rose, voilà le petit objet, le joli petit objet que j'ai à offrir. Ah, je vois que c'est quelque chose qui te fait bien plaisir.
C'était Henri Jeunesse qui reprenait une chanson plus ancienne, hein, Le Petit Objet. Henri Jeunesse en 1966, Le Petit Objet. Ben maintenant, on va se mettre alors, dans un autre registre, hein, très différent. Là, hein, c'est pas du végétal, ce serait peut-être plutôt le contraire, hein, du minéral. Enfin, c'est assez original parce qu'il n'y a pas de, y a pas d'animal. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'asperges non plus. Ça se passe dans la rue, c'est plutôt une histoire de travaux publics, on va dire, qui peuvent avoir lieu effectivement dans la rue. Et autre particularité, c'est qu'il ne s'est, jusque-là, on avait une évocation de relations. On va dire plutôt hétérosexuel, là pas forcément. Cette jolie petite chansonnette coquine a été créée en 1906. L'enregistrement que vous allez entendre date de février 1928. Au piano, vous aurez Gustave Andolfi. Le texte et la musique, enfin, le texte et, se sont mis à deux. Hein. Il y a Paul Briolet et Jules Combes. Et pour la musique, Désiré Berniot. Ça s'appelle donc Le Trou de mon quai. Et c'est interprété par Dranem. C'est très savoureux.
Je vais avoir le plaisir de vous chanter Le Trou de mon quai, petite chansonnette métropolitaine. Je demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue. Il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. L'autre jour, je rencontre un vieil ami de province. Je lui dis, tu tombes bien mon prince. De Paris, je vais te montrer toutes les curiosités. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris, il n'y a que celle-là, j'en ai une plus chouette que ça. Accepte à dîner, je t'en prie, après sans trop nous fatiguer. Je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou de mon quai. Ici-bas, la joie n'est qu'un leurre. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude. Et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon quai sera bouché. Adieu, joie des rêveries nocturnes. Adieu, journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurai plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Oh, c'est malheureux tout même.
Ah oui, ah oui, c'est quelque chose. Hein. C'est... Oui, oui, oui. alors, revenons à la poésie. C'était, pourquoi c'était pas poétique ? Ben, si. Voici une histoire de poisson, d'anguille, me semble-t-il.
Un jour, le père Boniface, sur le carême, allait prêcher. Par hasard, auprès de lui passe Guillot, qui venait de pêcher. Le villageois offre au bon père une anguille. Excellent morceau. Quoique près de monter en chair, le moine accepte le cadeau. Excité par la gourmandise, Boniface n'a pas songé que tout le monde est à l'église. Du poisson, il reste chargé. Où diable mettre cette anguille ? Mais je trouve un moyen fort bon. Et sous son ample sous-quenille, il l'attache avec un cordon. Il se montre enfin dans la chair, croyant le poisson bien caché. Il parle. Il prend un ton sévère dont tout l'auditoire est touché. Bientôt l'anguille frétillante qu'il n'avait pu bien enlacer agite sa robe mouvante et donne beaucoup à penser. D'abord les mamans sont surprises. Les fillettes baissent les yeux, on rit. Le moine est dans les crises. Mais voyant l'objet scandaleux, il relève sa houppelande et leur fait ainsi la leçon. Vous croyez que c'est de la viande ? Non, mesdames, c'est du poisson.
Oui, c'est court, mais c'est pas mal. C'est encore interprété par Caroline Claire, l'anguille de Monsieur De Pradel. Oui, de. Ah oui, il y en a une que j'aime bien. Ah oui, celle-là, elle est vraiment sympa. C'est la charmante Joséphine Baker. Baker. Voulez-vous de la canne à sucre ? C'était, vous savez, Joséphine Baker. Caricature, c'est toujours à poil avec les régimes de bananes autour d'un. Charmant, charmant. Là, elle est dans une revue qui s'appelle Paris qui remue. Parole, texte de M. Lelièvre et Varna, musique de Paddy. C'est enregistré le 23 octobre 1930. Et tenez-vous bien, ça s'intitule Voulez-vous de la canne à sucre ?
Thank you. banane, ça ce sera le petit bout. Mesdames, prenez mon offrande, vous trouverez ça si grisant. Quand vos maris si gourmandes, vous direz radin d'oison.
Oh Miss, vous avez donné tout, et moi j'en vous laisse un petit bout.
Tiens, tiens,
pour
tiens,
voir
tiens.
Si vous avez raison de trouver ça si bon.
Ne vous désolez pas, voyons. Par là j'ai ma petite provision. Venez, jolie personne, afin que je vous donne la canne, 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 mon dessert favori. La canne, la canne, la canne de mon pays. En voulez-vous de la canne? La canne à sucre, c'est fou. C'est meilleur que la banane. Ça se souce pas le petit bout. Mesdames, je vous recommande de profiter de l'occasion et de vous montrer gourmande pour la repopulation.
Pour la repopulation, voilà, l'émission est subventionnée par le ministère de la Famille pour assurer nos vieux jours. Faut faire des enfants quand même. Hein, bon, voilà. Voulez-vous de la canne à sucre? C'est vraiment délicieux, délicat. Enfin, je veux dire, la chanson et cette interprétation de Joséphine Baker, absolument magnifique. Allez, encore un petit peu de poésie avec une histoire de petit chat.
Enfin dans ta chambre, chérie, ayant pénétré malgré toi, ta gentille ménagerie hier apparut devant moi. Ton musée, aimable Rosine, sans doute n'est pas sans éclat, mais le plus joli, ma cousine, c'est à coup sûr ton petit chat. Tu te plains de ce que naguère, négligeant tes jeunes appas, avant mon départ pour la guerre, de toi je ne m'occupais pas. Sur le minet d'une voisine, si j'ai commis 12 attentats, c'est qu'en ce temps-là, ma cousine, tu n'avais pas de petit chat. Pour nous charmer à l'improviste, en vain tu cachais ces trésors. Moi, curieux naturaliste, pour les voir j'ai doublé d'efforts. Mais voir est trop peu, j'imagine. Voir n'amène aucun résultat. Oh, permets-moi, chère cousine, de caresser ton petit chat. Toujours désireux de te plaire, oh, sans lui vouloir aucun mal, que j'aimerais à satisfaire ce gourmand petit animal, si d'un coup de griffe assassine, je n'avais peur qu'il me payât. Sois franche et bonne, ma cousine, dis-moi, mord-il ton petit chat? Quelle délicatesse extrême! À peine si je l'ai foulé, et pour deux coups fort légers même, déjà ses larmes ont coulé. Mais pour cela, chère Rosine, ne va pas me faire sabbat. Tu étais heureuse, ma cousine, lorsque pleurait ton petit chat.
Charmant, charmant, le petit chat, signé d'un certain monsieur Debrault et interprété par Caroline Claire. Alors, je crois qu'on a évoqué pas mal de choses, mais pas encore les histoires de chasse, enfin de fusil, hein, puisqu'on est toujours dans la métaphore, je vous le signale. C'est une émission d'un haut niveau intellectuel, hein, pas du tout d'allusion libidineuse, encore moins pornographique. Non, certainement pas. D'ailleurs, ce serait interdit d'antenne. Voici la chasse à tir.
Fort gentil, mon cher Cléante, de m'inviter dans vos forêts. La chasse à tir est bien tentante, c'est un plaisir que j'ignorais. Mais il se rêve que je scelle, que je n'y connais rien du tout. On n'apprend pas ça aux pucelles. Jamais je n'ai tiré un coup. Ignorant tout de la pratique d'un art si noble et si secret, il serait bon que l'on m'explique ce qui se passe et qui se fait. Votre arme, bien qu'en bandoulière, m'impressionne déjà beaucoup. De la brandir, je serais fière. Jamais je n'ai tiré un coup. Si vous voulez, mon cher Cléante, apprenez-moi par le menu mille et mille choses troublantes sur cet engin si inconnu. Ainsi, c'est la queue de détente qui met le feu là-bas au bout. C'est passionnant d'être savante. Jamais je n'ai tiré un coup. Quand doucement, par l'embouchure, vous poussez la baguette à fond, un tendre émoi, je vous le jure, me pénètre jusqu'au tréfonds. Je ne suis pas cynique douille, mais fort serviable, savez-vous. Laissez-moi vous tenir les douilles. Jamais je n'ai tiré un coup. Mais qu'est-ce donc, mon cher Cléante? Votre arme soudain me secoue. La chose est à coup sûr navrante, car je l'avais à peine en joue. Rechargez-la sans plus attendre, mais votre œil noir soudain me cloue. J'aurais cassé votre détente. Jamais je n'ai tiré un coup. Pour réparer, il faut Cléante me retrousser un peu de peur, que ma jolie robe amarrante ne soit tachée par l'éjecteur. Tandis que vos longs doigts s'agacent à fourrager un peu partout, au fond de mon trou de culasse, jamais je n'ai tiré un coup. Tandis que votre main experte m'explore en vain le bassinet, je dois mettre à profit et perte le doux plaisir que j'escomptais. Tant pis pour vous, mon cher Cléante, vous ne serez pas le premier, car j'irai à chasse courante y prendre les honneurs du pied.
Charmant, absolument charmant. Alors, je n'en sais pas plus sur cette chanteuse qui se surnomme Mickey. Et ça s'appelle donc La Chasse à Tire. C'était écrit et composé par messieurs Ourdo et Bertrais. Une belle collection de... complètement métaphorique. Alors, il y a eu l'hymne à l'asperge tout à l'heure. Et là, il est de nouveau un petit peu... à nouveau aux questions d'une asperge, mais accompagné d'un haricot. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, ce couple de l'asperge et du haricot. On va voir ensemble.
Une petite chanson grivoise intitulée « L'asperge et le haricot ». Certains jours dans Argenteuil, une asperge en branche au marché faisait de l'œil à ses voisins de planche. Lorsqu'elle vit un petit soisson abrité dans sa maison, de suite elle lui dit: beau gosse, ouvre-moi ta cosse. Oh, oh, madame, l'asperge c'est pas beau, dit l'haricot. Oh, oh, oh. De se faire voir toute nue, c'est défendu. Oh, 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 ne crois pas ça, mon mignon, que l'asperge répond, car je peux pas, tant c'est petit, risquer un œil dans ton logis. Trop petit. Le petit soisson prudemment mit le nez à la fenêtre. L'asperge s'allongea vivement de 10 cm. Mais devant le haricot, elle retira son chapeau. Je suis polie, ma cocotte, je me décalote. Oh, oh, Madame l'asperge, quel culot, dit l'haricot. Oh, 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 vous aurez le rhume de cerveau sans votre chapeau. Oh, 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 ne crains pas ça, mon mignon, que l'asperge répond. Il fait chaud, à cette heure-ci, tu ne vois donc pas qu'il est midi. Mais oui. Et sans attendre plus longtemps, d'une poussée très forte, l'asperge la tête en avant, défonce à la porte. Mais soudain elle pousse un cri, le petit soisson, mes amis, était devenu dans son bouge un haricot rouge. Oh, oh, dit l'asperge en tournant le dos au haricot. Oh, oh, Angleterre, petit chameau, c'est pas mon blot. Ah, 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 tant pis pour toi, mon coco, dit l'haricot. Et l'asperge de désespoir se mit à la sauce blanche le même soir. Bonsoir.
L'asperge et le haricot par Ligeau en 1934. L'émission est presque terminée. Je vais essayer de mettre un dernier petit bijou comme ça, poétique. Et puis je crois que bah, j'ai une belle annonce à vous faire parce que ces métaphores coquines, eh bien, on peut considérer que c'était le début d'une série, le premier épisode. Et la prochaine fois, je vous promets, il y aura une suite parce que j'ai trop de belles choses. On essaye de se passer quand même ce petit truc. C'est quoi le lutte.
Pour le plus doux et bas que je puisse choisir, souvent après dîner, craignant qu'il ne m'ennuie, je prends le manche en main, je le tâte et manie tant qu'il soit en état de me donner plaisir. Sur mon lit je me jette et sans m'en dessaisir, je l'étreins de mes bras. Et sur moi je l'appuie, et remuant bien fort, d'aise toute ravie, entre mille douceurs j'accomplis mon désir. S'il advient par malheur, quelquefois qu'il se lâche, de la main je le dresse, et de rechef je tâche à jouir du plaisir d'un si doux maniement. Ainsi, mon bien-aimé, tant que le nerf lui tire, me contemple et me plaît, qui de lui doucement, las et non assouvi, enfin je me retire.
Voilà, donc on continuera, c'est promis, la semaine prochaine pour un nouveau Trou d'air. C'est des métaphores coquines, malicieuses, enfin, tout ce que vous avez pu apprécier, vous allez en retrouver d'autres pour le prochain épisode de Trou d'air. Allez, à mercredi, peut-être en 15, je ne sais plus si c'est... Voilà, ou dans deux semaines, c'est pas grave. Enfin, ce sera un prochain mercredi, toujours sur la Radio Primitive, le mercredi à 21h. Voilà.
Radio Primitive.
Engagé pour l'éducation populaire.
C'est l'heure du péniche.